En séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Les travaux académiques en séance ordinaire sont consacrés en 2009, sous la présidence de Jean-Claude Casanova, au sujet « Université, sciences et recherche dans la France d'aujourd'hui ». Le 16 mars 2009, l'Académie des sciences morales et politiques recevait en séance Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, sur le thème « Les enseignements du modèle américain pour la France ». Canal Académie vous propose, dans cette émission, d'écouter la retransmission de sa communication. Retrouvons Antoine Compagnon en salle des séances.
Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, je vous suis reconnaissant de m'avoir donné l'occasion de mettre au clair les quelques idées sur ce sujet que j'ai depuis longtemps. Depuis le classement de Shanghai, depuis qu'il est connu, l'urgence d'une réforme de l'enseignement supérieur en France s'est imposée et il y a aujourd'hui dans l'opinion française un mythe de l'université américaine. Suivant ses préjugés, on l'invoque comme un idéal ou comme un danger. Or, comme tout mythe, celui-ci est très éloigné de la réalité. Aussi importe-t-il de commencer par balayer les idées reçues sur le prétendu modèle universitaire américain. Que n'entend-on pas ces jours-ci, par exemple la semaine dernière dans un article du Monde, sur la privatisation progressive, la marchandisation rampante, la mise en concurrence, la flexibilité, la précarisation, l'idéologie de l'évaluation, le critère de la rentabilité imposé aux universités françaises sur le modèle américain. J'analyserai une dizaine, si j'ai le temps, d'idées reçues relatives à ce système, à son unité, sa taille, sa structure, au coût des études, à la sélection des étudiants, au marché des diplômes, à la concurrence, à l'évaluation, à la gouvernance et au financement, enfin à la liberté académique. Je ferai quelques rappels historiques indispensables. Chemin faisant, en levant ces malentendus, je me demanderai quelles leçons retenir pour l'enseignement supérieur français, sans ignorer que le système universitaire américain se trouve lui-même à un tournant et qu'il n'est pas sans fragilité. Premier lieu commun, première idée reçue, il y a un modèle américain, il y a une université américaine. Je dirais non. Les universités américaines sont fortement différenciées. Le nombre des établissements est de l'ordre de 4000, dont 2400 offrant des études en 4 ans. Moins de 5% de ces établissements sont ce qu'on appelle des « research universities », entre 100 et 120. C'est à celles-là qu'on pense quasi exclusivement, à celles qui arrivent en tête dans le classement de Shanghai, et on oublie tout le reste, ou à peu près, quand on parle de l'université américaine en France. Parmi cette centaine d'universités de recherche, il faut encore distinguer l'Ivy League, composée de 8 universités privées du Nord-Est, fondées entre 1636 pour Harvard et 1769 pour Dartmouth, plus Cornell, fondée un peu plus tard, institutions coloniales et confessionnelles qui étaient des sortes de « finishing schools » établies sur le modèle anglais où se formaient les élites. Mais ces universités surprendre le tournant de l'université de recherche après la création de Johns Hopkins à Baltimore en 1876, date de naissance fondamentale de l'université de recherche américaine sur le modèle allemand. Ces 8 universités Ivy League se retrouvent toutes dans l'Association of American Universities, AAU, fondée en 1900 avec 14 membres. 2 en sont sortis depuis, de ces 14, les 12 autres se retrouvent aujourd'hui parmi les 15 premières universités américaines au monde. Dire que ça n'a pas beaucoup changé depuis 1900. Et cette Association of American Universities, qui comprenait 14 membres en 1900, on comprend aujourd'hui 60 sur 4000. Ces universités, ces 60, cumulent 60% des contrats de recherche, 52% des doctorats, 43% des prix Nobel depuis 1999 dans le monde et 74% des prix Nobel aux États-Unis. 2/3 des membres de l'American Academy of Arts and Sciences, enfin. Le tout pour seulement 7% des étudiants sous-gradués et 20% des étudiants gradués. Ainsi, il y a moins en commun entre Harvard et le Community College d'El Paso qu'entre l'École normale supérieure de Paris et l'IUT Tourisme de Mende. En France, les établissements sont tous régis par la même loi, aujourd'hui la loi LRU, les enseignants sont tous soumis au même statut, le fameux décret statutaire aujourd'hui discuté, et les diplômes sont censément nationaux. On peut encore, à la rigueur, parler de l'université française avec un grand U, tout en sachant la fiction de cet égalitarisme, non pas de l'université américaine avec un grand U, qui n'a jamais existé. L'université américaine n'est donc pas une, mais multiple, diverse, hiérarchisée, ou comme on dit, étagée. L'exemple le plus clair de cet étagement est celui du système universitaire public californien, l'une des inventions les plus importantes en matière d'enseignement supérieur. C'est la seconde invention après celle de 1876 à Johns Hopkins. Le Three-Tier Public Higher Education System, mis au point par le California Master Plan for Higher Education de 1960. Les trois étages de ce système sont le University of California System, 10 campus, 190 000 étudiants, qui délivrent le BA, le MA et le doctorat. En dessous, le California State University System, 23 campus, 420 000 étudiants, qui délivrent le BA et le MA, mais non le doctorat. Enfin, le California Community Colleges System, 110 campus, 2,5 millions d'étudiants qui délivrent un diplôme en 2 ans. En France, on connaît Berkeley et UCLA, peut-être San Diego, Santa Barbara et Irvine, qui appartiennent au premier système, et on ignore tout le reste, pourtant démographiquement majoritaire. Or, nous aurions beaucoup plus à apprendre des deux autres étages que du premier, en Californie et en Amérique en général, puisque ce sont ces deux étages inférieurs qui permettent à plus de 60% des jeunes Américains de faire des études supérieures contre moins de 40% des jeunes Français. Cependant, revenons au premier étage. S'il y a 60 universités aux États-Unis dans l'American Association, cela suggère qu'à l'échelle de la France, il y aurait place pour un maximum d'une dizaine d'universités de recherche. Elles existent, mais on n'a pas trop le droit de les dire, et elles se dissimulent. Elles récoltent plus de 60%, largement plus de 60% des crédits de recherche en France, et elles ont une proportion assez comparable d'étudiants aux premières universités américaines. Deuxième idée reçue, la taille. Vous aurez remarqué qu'aux trois étages du système californien, très différents, on tourne toujours autour d'une même moyenne de 20 000 étudiants par établissement. Les universités américaines ne sont pas grandes par la taille. Harvard, 19 000 étudiants, 7 000 sous-gradués, 12 000 gradués. Columbia, 25 000 étudiants, 7 000 sous-gradués, 16 000 gradués. Johns Hopkins, 19 000 étudiants, 4 500 sous-gradués, 14 000 gradués. Si on regarde une université publique parmi les meilleures, Michigan, 41 000 étudiants, 25 000 sous-gradués, 15 000 gradués. University of Texas, Austin, 48 000 étudiants, 37 000 sous-gradués, 11 000 gradués. Il n'y a pas d'université au-delà de 50 000 étudiants. Aux États-Unis, les plus grosses sont Ohio State, Arizona State, Florida et Minnesota. On peut avancer qu'il n'y a pas de grande université de recherche au monde au-dessus de 25 000 étudiants. Cela devient ingérable. D'où l'inquiétude de beaucoup d'entre nous à propos du remembrement de la carte universitaire en France, indispensable pour refaire des universités vraies, totales. Il faut revenir sur la dispersion des disciplines qui a résulté de la création des universités après 1968 sur la base des anciennes facultés dans les métropoles régionales et à Paris, où chaque faculté s'est divisée en deux sur une base idéologique. Mais il ne faut pas créer des monstres. Une rumeur court suivant laquelle l'université de Paris intramuros, si on la reconstituait, deviendrait numéro 1 en classement de Shanghai. Mais avec 170 000 étudiants, pour les universités de Paris 1 à 7, ce serait la taille de la 10e commune de France, sans parler du Grand Paris. Strasbourg 1, 2 et 3, tout juste unifiés, cela fait déjà 40 000 étudiants, dont 23 000 en licence. La structure est comparable à celle des plus grosses universités publiques américaines, comme Michigan et Texas. Mais à Bordeaux, l'unification donnerait un établissement de 58 000 étudiants, à Marseille de plus de 60 000, à Toulouse de 65 000, à Lyon de 80 000. À Paris, la rationalisation est encore plus inconcevable. On peut voir le rapport sur l'immobilier parisien il y a quelques mois. On parle d'une alternative entre des ensembles pluridisciplinaires, de vraies universités, et des ensembles disciplinaires, ce qui tuerait la concurrence, l'émulation, là où elle a émergé, entre Paris 1 et Paris 2 en droit, Paris 3 et Paris 4 en lettres, Paris 6 et Paris 7 en sciences. On évoque une association entre Paris 2, 3, 4 et 6, soit 80 000 étudiants, dont 55% en licence. Si je retiens une chose du modèle américain, c'est une vigoureuse mise en garde contre de tels rassemblements. Troisièmement, la structure. Une autre différence a dû vous sauter aux yeux. Les grandes universités privées de recherche américaines contiennent de petits collèges. 7 000 à Harvard pour les sous-gradués, le double pour les gradués. Les grandes universités publiques, Michigan par exemple, pour la même taille d'études professionnelles et graduées, ont de plus gros contingents sous-gradués, 26 000 à Michigan. Mais ces contingents sous-gradués sont divisés, répartis en plusieurs collèges et ne constituent pas une masse unique, comme nous trouvons dans les universités françaises, surdimensionnées en licence. Une université américaine est une structure fédérative de collèges et d'écoles professionnelles. La structure d'université américaine, publique comme privée, est donc très différente. Une bonne université a une base étroite et s'élargit vers le haut. Les universités françaises sont comme des pyramides procédant, comme le secondaire, à la sélection par distillation fractionnée. À partir des années 60, la démocratisation de l'enseignement supérieur s'est faite tout autrement dans les deux pays. Ici, les IUT, qui auraient pu être un peu l'équivalent du tier system californien, dispensant des études supérieures courtes tout en permettant des passerelles, ont été détournés de leur mission et sont devenus des classes préparatoires par défaut. Et la seconde démocratisation des années 1980 s'est faite par les premiers cycles des universités, peu adaptés au nouveau public bachelier, mais c'était un aménagement moins coûteux que de nouveaux IUT ou des community colleges. Cette erreur ancienne, ou plutôt ces deux erreurs anciennes, celle des années 60 et celle des années 80, nous les payons cher aujourd'hui, avec des IUT qui écartent les bacheliers technologiques et professionnels au profit des bacheliers généraux et avec le massacre des bacheliers technologiques et professionnels dans les premiers cycles universitaires. Cette erreur, je crains que nous ne soyons en train de la répéter avec l'autonomie, dont l'une des finalités, implicite et indicible, est de transformer la carte universitaire en un système étagé de pôles d'excellence et de facultés de proximité. Mais comme on ne peut pas l'avouer, cela se fait sans délibération, sans préméditation. Nous sommes encore au défi de réaliser un système universitaire étagé en France, sur le modèle américain ou sur un autre modèle, avec toutes les passerelles équitables permettant le passage d'un étage à l'autre, afin d'augmenter la proportion des diplômés du supérieur, au moins au niveau de l'OCDE, sinon des États-Unis. Quatrième idée reçue, les frais d'inscription. Que n'entend-on pas aujourd'hui sur l'inégalité de l'enseignement supérieur américain ? La sélection se ferait par l'argent, alors que les études sont ici quasi gratuites. Oui, les études dans les universités américaines coûtent cher à ceux qui les payent. Mais toutes les études montrent, toutes les analyses montrent que c'est un investissement très rentable, à long terme. Et les procédures d'admission dans les grandes universités sont ce qu'on appelle « need blind », aveugle aux besoins financiers, et « full need », avec un financement total des besoins si nécessaire. L'admission dans les universités privées est donc méritocratique, indépendante des moyens familiaux, basée sur des critères de connaissances, les fameux « Scholastic Aptitude Test », SAT, et des critères de compétences, non sur des critères financiers, sans parler, je n'en ai pas le temps, de l'affirmative action moins active aujourd'hui. Ainsi, si l'on prend une promotion récente, une classe récente de Princeton, 55% d'une promotion qui entre à Princeton bénéficie d'une aide financière, de 0 à 100%, ou même plus de 100%. Cette aide provient à 92% des ressources propres de l'université, c'est-à-dire endowment and gifts, du capital et des dons. Concédons, bien sûr, que cela ne règle pas tout et que la diversité du public ne suit pas automatiquement. Le pourcentage des minorités reste trop faible dans les grandes universités privées. La discrimination ne se fait pas par l'argent, mais la discrimination culturelle se poursuit par d'autres moyens. On sait toutefois depuis longtemps que la quasi-gratuité française n'a pas d'effet de redistribution des revenus dans l'enseignement supérieur, à la différence de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, parce que les riches sont de plus gros usagers de l'enseignement supérieur que les pauvres. Moralité, au pire, ce sont les pauvres qui payent pour les riches. On sait bien qu'un enseignement supérieur payant, combiné avec des bourses et des prêts, serait plus équitable. Plusieurs systèmes sont possibles, il n'y a pas que le modèle américain, par exemple le modèle australien de ce qui s'appelle Higher Education Loan Program, système de prêts sans intérêt, mais indexé, que les anciens étudiants remboursent avec leurs impôts en fonction de leurs revenus. Quatrième mythe, idée reçue, la sélection et la concurrence. Et je voudrais parler à la fois des étudiants et des professeurs. Oui, l'enseignement américain supérieur est sélectif, mais dans son système étagé, diversifié et hiérarchisé, il y a une place pour chacun et tous doivent être accueillis quelque part. Je parlais du système californien que Bernard Belloc avait analysé naguère. Il sélectionne dans son premier étage du University of California System le premier huitième par les résultats des tests SAT, ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats au SAT. Ensuite, le California State University System doit sélectionner parmi le premier tiers. Enfin, le California Community College System doit accepter tous les candidats. La poursuite constante de l'excellence, impliquant l'émulation, la concurrence et la compétition, est le moteur de l'université de recherche américaine depuis que l'université Johns Hopkins a été conçue en 1876 par un président fameux, Daniel Coit Gilman, après un long séjour en Allemagne. Et ensuite, par l'université de Chicago, fondée par John D. Rockefeller en 1891. Ce sont les deux universités qui ont lancé la concurrence, qui ont réveillé les anciens collèges coloniaux et confessionnels lorsque Hopkins et Chicago sont venus leur shipper leurs meilleurs professeurs. Et Johns Hopkins a servi de modèle aux 14 institutions de 1900 dans l'American Association qui se retrouvent aujourd'hui parmi les 15 meilleures. Les seules nouvelles dans cette liste des 15 meilleurs, c'est University of Illinois, Caltech et MIT. Ces 15 meilleures universités, entre lesquelles règne la concurrence la plus intense, sont privées, et ce sont d'anciens collèges métamorphosés, comme Harvard, Columbia, Cornell, Princeton, Yale et Penn. Ce sont des universités publiques où land grant, les universités qui ont été fondées par une dotation de chaque État, comme les universités les meilleures d'État qui sont Michigan, Wisconsin, California, qui étaient déjà en 1900 dans la liste, ou les universités nouvelles comme Johns Hopkins, Chicago, Stanford, et créées depuis Caltech et MIT. Parmi cette petite bande, la compétition scientifique est vive et elle donne lieu, en effet, à des pressions contradictoires. Donc je voudrais dire un mot parce que cela concerne un dossier brûlant en France, celui du juste équilibre entre l'enseignement et la recherche. La tension entre enseignement, sous-gradué notamment, et recherche a été particulièrement exacerbée dans les années 1980 aux États-Unis, avec l'apparition d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui avaient le comportement de « free agents », comme on dit dans les sports de compétition, allant d'offre en offre en faisant monter les enchères entre les universités. Il faut, à ce propos, rappeler que les présidents des universités, les présidents d'universités les plus vertueux, et notamment ceux des anciennes universités, soumis à la concurrence d'un certain nombre de nouveaux partenaires qui avaient d'autant plus d'argent que la bourse montait, ces présidents vertueux, soumis aux pressions du marché, n'ont cessé de rappeler l'importance de l'enseignement, même si c'est la recherche qui est récompensée sur le marché. Par exemple, Bartlett Giamatti, qui était le président de Yale, ou Derek Bok, qui était alors le président de Harvard, la plus ancienne et la plus riche, qui aurait eu le moyen de, comme on dit, moduler l'enseignement de ses professeurs. Derek Bock recommandait en 1991 que les universités de recherche ne luttent pas pour attirer les professeurs en négociant des services d'enseignement réduits ou des congés inhabituellement généreux, car le risque, à ses yeux, était de susciter une lutte de classe dans les universités et dans les départements entre différentes couches de professeurs plus ou moins favorisées. Il faut y réfléchir au moment où le débat sur la modulation des services éveille des craintes analogues en France. De fait, il y a peu de modulation individuelle des services aux États-Unis. Au-delà des différences relatives aux disciplines, on enseigne en général un peu plus dans les humanités que dans les sciences dures, et aux différences liées à la hiérarchie des établissements. On enseigne plus quand on descend d'un étage. Disons 2 plus 2, puisque c'est comme ça que ça se calcule, 2 cours par semestre dans les top 60, puis on descendra à 3 plus 3, voire à 4 plus 4, dans des community colleges. Mais les administrateurs résistent à inscrire des privilèges dans les contrats, et la modulation, puisque concurrence il y a, est en vérité beaucoup plus souple, puisqu'elle se fait par les salaires. Sixième idée reçue, le marché des diplômes. Que n'avons-nous pas entendu en 2007 au moment de la discussion de l'autonomie des universités ? De gauche et de droite, le même refrain, les universités pourront créer des diplômes, mais avec une morale différente, quelle horreur ou quel bonheur. Si l'enseignement supérieur est un marché, celui-ci est étroitement régulé aux États-Unis. Je sais que ce n'est pas trop le moment de défendre l'adéquation des régulations. Les universités sont accréditées par des agences régionales tous les 10 ans avec une étape à mi-parcours. Et le processus est bien plus lourd que nos contrats quadriennaux. Quant aux diplômes, ils sont accrédités par les États. On peut certes inventer de nouveaux diplômes, mais l'accréditation est difficile. J'en ai fait une seule fois l'expérience et je ne suis pas prêt de recommencer. Le plus difficile, ce ne sont pas les obstacles extérieurs, franchir le Sénat de l'État, mais les obstacles locaux, internes. Les comités d'instruction, le Sénat, garant du renom de l'institution, de son identité, responsable collectivement de la marque, si l'on veut, et tout le monde a des intérêts en la matière. Il y a donc une vigilance interne extrêmement grande, et je crois qu'il est beaucoup plus facile d'inventer des licences professionnelles en France, comme on l'a vu, que de créer un nouveau diplôme aux États-Unis. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pratiquement pas. Ce qui m'amène à un lieu commun suivant, ou une idée reçue suivante, la septième, qui concerne la tradition, avec l'idée que l'Amérique, c'est le marché, que le marché, c'est la mode, et que les modes changent. Je crois qu'il faut dire un mot de la stabilité beaucoup plus grande des universités américaines que des universités françaises, de leur attachement aux traditions, aux coutumes, aux usages, à la jurisprudence. J'ai dit que la courte liste des meilleurs avait peu changé depuis qu'elles avaient décidé qu'elles étaient les meilleures en 1900. Je songe moins au rituel du commencement, au port régulier de la robe, qu'à l'absence de course à la réforme et à la modernisation. Quand j'étais professeur à la Sorbonne, je me gardais bien de donner le moindre renseignement administratif aux étudiants, car j'étais sûr d'avoir toujours tort et d'être en retard d'une réforme, d'une directive, d'une instruction. Aux États-Unis, les structures changent très peu. Les libertés académiques, comme la Constitution américaine, la rule of law, sont immuables. Dans le monde de la common law, disons du droit coutumier, les universités reposent sur la jurisprudence, sans code de l'éducation, sans loi LRU, sans décret statutaire, sans réformes incessantes et rarement appliquées. À Columbia, que je connais bien, chaque département a ses bylaws, son propre règlement interne, que personne ne connaît, parce que le département fonctionne sur la tradition, sur la jurisprudence. Ce sont vraiment deux mondes opposés de ce point de vue, celui du stare decisis et celui de la rupture permanente. Ici, on a tendance à empiler les textes, les lois, les décrets actuels, lois LRU, décrets statutaires, étaient-ils vraiment indispensables ? L'autonomie commence paradoxalement par une uniformisation qui met à plat les usages locaux. La loi Savary et le décret de 1984 laissaient peut-être assez de latitude pour des expérimentations et des dérogations, du style de Paris 9 ou de Strasbourg. Il y a 2 ans, j'avais été invité à la convention de l'UMP sur l'enseignement supérieur au nom de QSF, et j'avais plaidé en ce sens, de l'expérimentation et de la dérogation. La première intervention, après mon propos, vint d'un universitaire qui a ensuite pris des responsabilités. Il était d'accord avec moi sur tout, sauf sur un point. « Nous voulons la rupture », dit-il, sous les applaudissements. Voyez, nous en sommes. La rupture est la hantise des universités américaines, car elle freine la levée de fonds. 8e idée que je voudrais évoquer, c'est l'évaluation. C'est un peu, car l'évaluation est un peu le lieu commun dominant de l'université française aujourd'hui, ça serait la panacée, la bouée de sauvetage. Et là aussi, on a tendance à croire que cela nous vient d'Amérique. Non. On parle peu d'évaluation en anglais, le mot même est peu utilisé sur la scène universitaire. Le seul emploi qui lui est consacré, c'est « course evaluation », l'évaluation d'un enseignement, d'un cours individuel. Sinon, on parlera à la rigueur d'assessment, d'audit, en Angleterre de quality assurance. Mais ça concerne des autres niveaux de l'institution. On entend très peu le mot évaluation dans les universités américaines. Pourquoi ? Si on en parle peu, c'est qu'elle est partout présente, fluide, continue, comme le marché, concernant tous les aspects de la vie universitaire, l'enseignement, la recherche, mais aussi les logements des étudiants et la cuisine des réfectoires. C'est le marché qui produit l'évaluation de la qualité des diplômes, des professeurs, des établissements. Et les usines bureaucratiques à produire de l'évaluation sont inutiles, d'autant plus qu'elles tendent à produire de l'évaluation sans finalité. On évalue pour évaluer, car les décisions ne suivent pas. Dans les universités américaines, on n'évalue pas en tant que tel, si vous voulez, s'il n'y a pas de décision à la clé, tout simplement parce que l'évaluation, comme toute chose, a un coût. Et la priorité est conférée à l'auto-évaluation, ce que je traduirai par « self-policing ». C'est le fondement de la qualité de l'université américaine. Et je crois qu'il est plus efficace parce qu'il se tient au plus près des acteurs. J'ai le souvenir d'un malentendu, il y a quelques années, lors d'une conversation avec Jean-Marc Monteil, qui était alors le directeur de l'enseignement supérieur, et nous parlions de l'évaluation. Je lui disais que la seule vraie évaluation était, à mes yeux, l'auto-évaluation. Ce jour-là, on ne se connaissait pas encore, et il m'a pris pour un syndicaliste, alors que ce que je voulais dire, c'est que c'était la seule chose sérieuse, et que l'évaluation, le self-policing, est l'évaluation la plus sévère, car elle est gardienne du renom de l'établissement. À Columbia, j'ai fait mon apprentissage du self-policing lorsque j'ai été nommé dans un comité qui s'appelait Planning and Budgeting Committee. C'était le comité qui auditait tous les départements et faisait des recommandations sur leur évolution. J'avais été nommé dans ce comité, qui était une sorte de comité interne de l'université, après une offre d'une université concurrente, et pour me retenir, après une discussion avec mon vice-président. Je n'ai jamais vu ailleurs que dans ce comité, je n'ai jamais vu en France, autant de vigilance, d'exigence et de soupçons. Je sais qu'il peut avoir l'air naïf de défendre aujourd'hui le self-policing face aux dégâts de l'autorégulation dans les banques, mais les universités américaines sont des systèmes essentiellement autorégulés. Bien sûr, il y a des effets pervers, j'en ai signalé un tout à l'heure, les free agents des années 80 et 90, bon, c'est terminé aujourd'hui, puisque Harvard ne recrute pas, les universités ne recrutent pas pour l'année prochaine. Donc c'est une bulle. Il y a des bulles intellectuelles lorsqu'il y a un marché. Ici, je crois que nous sommes à mi-chemin entre la planification et le marché en ce qui concerne l'université. Un système qui a été longtemps excessivement centralisé et dirigiste est secoué par des velléités qui viennent du centre, de responsabiliser les établissements et les agents. Nous en sommes à l'étape de la perestroïka et de la glasnost. Mais les administrateurs locaux, directeurs d'écoles primaires, de collèges, de lycées, présidents d'universités, redoutent l'autonomie. Et les enseignants-chercheurs, encore plus, sans compter qu'ils font peu confiance à leurs administrateurs locaux. On débat aujourd'hui de l'évaluation des enseignants-chercheurs en France. Faut-il les évaluer tous les quatre ans? C'est une conception très étrangère au système américain. C'est une conception formelle, comptable, qui se rapproche plus de la notation que de l'évaluation scientifique et qualitative. Je l'ai dit, l'évaluation coûte cher. C'est du sur-mesure. Ce qu'on est en train de nous préparer, c'est plutôt du prêt-à-porter. On en parle sans parler de son coût. Ce qu'on appelle un comité ad hoc aux États-Unis pour donner la titularisation, ça coûte cher. La première chose que fait un département quand on l'autorise à faire une search, je sais pas comment, la recherche d'un collègue, la première chose que négocie un département, c'est le budget de cette search, sans quoi il n'y a pas moyen d'avancer. Aujourd'hui, nous parlons de commission de sélection sans budget afférent. Lorsque j'étais l'an dernier dans la commission Pochard pour l'enseignement secondaire et primaire, je crois aussi, je ne sais plus, l'une des disputes avec les représentants du ministère était qu'ils jugeaient que les concours coûtaient cher à l'État, 38 millions d'euros en 2006. Je suis heureux d'avoir réussi à faire écrire dans ce rapport « L'éducation nationale est un gros employeur. Par professeur recruté, or il est recruté à vie comme fonctionnaire, le coût de recrutement s'élève à environ 1 200 euros, ce qui n'est pas beaucoup. Les seuls entretiens d'embauche pour un cadre privé, un cadre moyen du privé, seuls entretiens d'embauche sont facturés en moyenne à plus de 1 800 euros. Dans l'enseignement supérieur, on recrute à vie des fonctionnaires sur un coût non chiffré, administration centrale et locale, CNU, mais assurément très inférieur à ces 1 200 euros de l'enseignement secondaire et primaire, sans commune mesure avec le coût d'un recrutement américain. Aux USA, aux États-Unis, le coût d'une tenure, après 6 ou 9 ans, est élevé, mais c'est un investissement de 30 ou de 40 ans. Il n'y a plus d'âge de la retraite aux États-Unis, en plus. Nous en sommes donc à une évaluation qui part du centre, qui crée administrativement la différenciation, au lieu de laisser le marché le faire par la concurrence. Neuvième idée reçue, la gouvernance des universités. On rencontre beaucoup ce mythe du président, CEO, Chief Executive Officer, PDG de l'université, conçu comme une entreprise soumise à un management rationnel. À propos de la loi LRU, le même mythe a été rencontré à gauche et à droite. Au moment de la discussion de cette loi, en juillet 2007, j'ai écrit dans un article du Figaro, qui a été repris notamment par François Bayrou lors du débat parlementaire, qu'on donnait au président d'université français les pouvoirs d'un grand nombre de personnes dans une université américaine. Non seulement le président de l'université, mais aussi le président du Board of Trustees, le provost, le Dean of the Faculty, le président du Sénat, le Chief Financial Officer, sans compter le doyen du collège, le doyen de la Law School, le doyen de la Business School, etc., sans aménager de contre-pouvoir. Aux États-Unis, le président ne joue pas tous ses rôles. Il sert au gré des trustees. Dans les grandes universités, le président a en vérité peu de pouvoir. Son pouvoir repose sur son autorité et sur sa faculté de persuasion. Voici ce que disent les statuts de Columbia. Je vous les cite en anglais. Overall governance of the university. La gouvernance de l'université lies in the hands of its 24-member board of trustees. The trustees select the president, oversee all faculty and senior administrative appointments, monitor the budget, supervise the endowment, and protect university property. le président de l'université décide en dernière instance s'il en veut, mais il est significatif que ce ne soit pas lui qui signe les engagements, les contrats du corps enseignant, mais le secrétaire de l'université, c'est-à-dire le représentant du Board of Trustees et l'agent de liaison entre le conseil d'administration et l'administration de l'université. Appointment or reappointment of officers of instruction and the terms of appointment are first confirmed in writing by the department chair or dean. Then they are subject to approval by the provost. The office of the secretary issues formal letters of appointment upon approval by the provost. Vous aurez remarqué, mais il vaut la peine de le souligner, que le président n'a pas été mentionné dans ce processus. Il s'agit du département et du chef de département, du doyen, du provost et du conseil d'administration et de son secrétaire. Le président d'université américaine s'occupe essentiellement des relations avec les instances extérieures, l'État fédéral, l'État local, la ville, la communauté des alumni. Il est avant tout celui qui planifie le long terme, qui gère la levée de fonds, mais il est peu engagé, sauf dans les occasions dramatiques, et donc on espère qu'il n'y en ait pas trop, dans la gestion au jour le jour de l'enseignement et de la recherche dans l'établissement, qui est la responsabilité du provost. Son pouvoir dépend de sa vision d'avenir, de son autorité, de sa faculté de persuasion. S'il a ces qualités, il donnera quelques grandes et fortes orientations et inflexions. Il influera indirectement sur une poignée de recrutements très visibles. Le modèle adopté en France aujourd'hui n'est pas celui des grandes universités américaines, mais malheureusement celui des établissements intermédiaires et souvent plus douteux, ceux où il y a des scandales parce que le président accumule trop de pouvoir, caporaliste et clientéliste. On pourrait citer quelques exemples. John Silber, qui était un président très controversé de Boston University de 1971 à 1996, dont le mandat a été marqué d'abord par son salaire très élevé, ensuite par la vente de diplômes honoris causa, quelques scandales immobiliers qui ont permis à l'université de monter dans les classements, mais qui ont fait chuter la levée de fonds auprès des alumni. On peut citer Peter Diamandopoulos, chassé d'Adelphi University en 1997, et à qui on a reproché à la fois son salaire élevé et son mismanagement. Je crains qu'on n'emprunte pas aux meilleurs et que ce soit plutôt les dangers de l'université américaine que nous allions chercher. Ailleurs, voyez comment Larry Summers, à Harvard, confondant justement les rôles et voulant intervenir dans des questions d'enseignement, a vite été conduit à démissionner. Et toutes ces controverses affectent immédiatement la levée de fonds et donc les finances d'un établissement. On emprunte un modèle de management inapproprié et peut-être démodé. Je cite ici un article du Financial Times il y a quelques mois, à propos des universités anglaises, mais le cas est à peu près le même que celui des universités françaises, disant qu'on avait tendance à les concevoir comme des machines bureaucratiques où les professeurs sont des employés interchangeables dans une usine académique intégrée, alors que les entreprises qui créent aujourd'hui de la valeur ajoutée en termes de connaissances et qui prennent des parts de marché aux entreprises administrées centralement sont celles qui s'organisent en petites cellules entrepreneuriales, souplement reliées et autodéterminées, telles les campus fédératifs de Apple ou de Google. Bien entendu, cette structure fédérative complexe de l'université américaine ralentit les décisions. En vérité, je l'ai dit, il y a très peu de pouvoir central. L'université américaine ne fonctionne pas sans autorité personnel, et il est vrai qu'on y perd beaucoup de temps à la recherche du consensus. C'est ce que fait, pour l'essentiel, une administration présidentielle. Dans ce qui est considéré comme une compagnie de pairs, c'est essentiel et c'est long. Le jugement par les pairs, la recherche du consensus, est connu pour ne pas produire de consensus sans longue durée, ni de jugement sans ambiguïté. Les administrateurs doivent susciter des coalitions dans la faculté selon un processus long et difficile à maîtriser. L'administration tendant souvent, je l'ai vu, à reposer sur un noyau de la faculté censé représenter l'avenir et qui sont ainsi prises en otage entre l'administration et la faculté en général. Mais en l'absence de constitution, la gouvernance d'une université américaine repose sur la common law, le droit coutumier, c'est-à-dire la persuasion, la coalition et le consensus. Dixième point que je voudrais évoquer, la levée de fonds, puisque là aussi c'est un terme aujourd'hui beaucoup employé, nouveau, à propos des universités françaises et des fondations qu'elles sont en train de créer. Il faut rappeler que dans une université américaine, le budget, revenues, du côté des revenus, se décompose en trois tiers. Tuition and fees, c'est-à-dire les droits d'inscription, research grants and contracts, contrats de recherche de toutes origines, enfin, private support, ressources privées, c'est-à-dire endowment, le capital, l'intérêt du capital, et gifts, ce qu'on appelle soft money, enfin l'argent liquide, enfin ce qu'on peut dépenser dans l'année. En gros, ça fait trois tiers. En général, dans les universités privées, 15 à 20% du budget provient du capital, de l'endowment. Voici par exemple la décomposition du budget de Yale. Yale, tuition 24%, droit d'inscription 24%, grants, contrat de recherche 28%, dont 75% d'origine fédérale, endowment 20%. Et je rappelle que pour l'endowment, donc le capital d'une université, en général, il y a une règle, spending rule, comme on l'appelle, qui est de 4,5%. On a le droit de dépenser 4,5% du capital chaque année, ou en vérité 4,5% de la moyenne de la valeur du capital sur les trois années précédentes, pour amortir un petit peu les choses. Enfin, vous avez constaté que, avec ce que j'ai dit, ça ne fait jamais que 70%, ou à peu près. Ce qui manque, c'est le medical income, 17%. N'oublions pas que toutes ces grandes universités ont un hôpital et que ça compte beaucoup dans leur budget. Et puis, la dernière chose qui compte énormément, c'est aujourd'hui, et de plus en plus, ce sont les brevets. Tout ce qui vient largement de la médecine, d'ailleurs, également, et des médicaments. Dans la crise actuelle, ce sont les revenus du capital qui sont brutalement frappés, puisque l'endowment de Harvard a baissé, j'ai pris les chiffres, c'était déjà il y a un mois, ça a encore baissé depuis, 22% il y a un mois, ce qui en vérité ne ramène la valeur du capital de Harvard qu'à sa valeur de 2006, puisqu'il avait beaucoup augmenté depuis 2006, mais enfin ce qui fait quand même un trou dans le budget de l'année prochaine de 500 millions de dollars. Ce qui n'est pas rien, ce qui a évidemment des répercussions immédiates, telles que le gel des recrutements pour l'année prochaine. Je crois que là aussi, il y a un malentendu à propos de cette levée de fonds. Les universités françaises créent des fondations, mais pour lever des fonds auprès de qui ? Des entreprises, semble-t-il. C'est une hérésie. En vérité, ce sont les personnes physiques qui contribuent pour 90% au fonds versé aux entreprises culturelles et éducatives américaines sans but lucratif. Ce n'est pas le mécénat d'entreprise. Le mécénat d'entreprise est en vérité aussi élevé en France aujourd'hui qu'aux États-Unis pour les entreprises culturelles. Le déficit vient des individus, des personnes physiques. Je disais qu'il est comparable, le mécénat d'entreprise est comparable pour les entreprises culturelles en France aux États-Unis. Aux États-Unis, il est entre 5 et 10% du budget de la recherche, c'est tout. C'est donc le moteur des dons individuels qui doit être enclenché en France, si l'on veut trouver une autre source de financement des établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire essentiellement les alumni, les anciens. Or, comme on le sait, les grandes écoles françaises n'y parviennent pas encore, que ce soit l'École normale supérieure ou l'École polytechnique, qui ont des fondations. Parce que la levée de fonds auprès des alumni suppose un coût, là encore, un suivi et des calculs de rentabilité. Que dire donc des universités ? Je crois qu'il y a un malentendu qu'on trouve beaucoup en France aujourd'hui dans la confusion entre ce qu'on appelle levée de fonds et qui est en vérité du partenariat public-privé. Ce qui a encore été illustré dans une quatrième conférence qui a eu lieu il y a très peu de temps, le 11 février 2009, quatrième conférence de fundraising pour l'enseignement supérieur et la recherche. Lorsque je regarde ce qui a été dit, en vérité, on a parlé de partenariat public-privé et il n'y a rien dans les propos sur les personnes physiques ou sur les entreprises. Qu'ai-je laissé de côté ? Beaucoup de choses. On pourrait ajouter quelques chapitres à cette liste de malentendus. Les bibliothèques, les brevets, les start-up, les incubateurs, bien des choses. Mais je voudrais finir sur le civisme de l'université américaine. Et je crois qu'il est de deux ordres. Premièrement, il y a un civisme qui relève de ce qu'on peut appeler « common good ». Toute université américaine est inscrite dans la cité, dans la police. Peut-être que celle de Chicago est l'une des plus exemplaires, mais celle de Columbia également. Il y a une dimension de l'université, dimension civique de l'université, publique comme privée, relevant de la tradition de l'humanisme civique. Voyez, par exemple, les retours incessants entre les grandes universités et le gouvernement après chaque élection. On vient de le voir, tous ceux qui ont été recrutés dans dans l'équipe du nouveau président, notamment à Harvard, puisqu'il a fait ses études graduées là, aussi à Columbia, puisqu'il a fait ses études sous-graduées à Columbia. C'est là que se trouve la réserve d'expertise, dans un aller-retour constant entre l'université et les hautes responsabilités publiques. De ce point de vue, on pourrait, en France, suivre cette leçon. L'autre type de civisme que je voudrais évoquer, c'est le civisme universitaire proprement dit, ce qu'on appellerait en anglais « good citizenship ». Le « good citizen » dans l'université américaine, c'est celui qui s'oppose au « free rider ». Cette opposition « good citizen »,« free rider », le « free rider », c'est celui qui, selon l'économie, bénéficie des efforts des autres sans payer de sa personne. Le « good citizen » et le « free rider ». C'est quasi impossible d'être un « free rider » dans une université américaine, dans un pays qui reste celui du patriotisme à tous les niveaux, que ce soit l'État fédéral, la ville, la communauté, l'entreprise et bien sûr l'université. Il est impossible d'être dans son université sans s'identifier à son université, comme structure fédérative et non seulement comme somme d'individus juxtaposés vivant leur métier comme une profession libérale et s'identifiant non à l'établissement où ils exercent, mais à leur discipline au niveau national. L'université avec un grand U, avec ce statut de fonctionnaire d'État, auquel aujourd'hui les universitaires se raccrochent d'autant plus qu'ils croient qu'il est menacé, et sans doute conciliable avec ce que j'appelais le free riding. De ce point de vue, je crois qu'il faudrait, et j'arrive à ma conclusion, il faudrait réfléchir à ce panthéon des grandes figures de présidents d'universités américaines, qui ont tous été de grands civic leaders, de grands humanistes civiques et des visionnaires, de véritables statues du commandeur. Il y a des modèles présidentiels. J'ai cité Coit Gilman à Hopkins, fondateur d'Hopkins. Je voudrais citer William Rainey Harper, qui est le fondateur de Chicago en 1891, Butler, qui a été le président de Columbia de 1902 à 1945, ce qui est assez long, et qui a reçu le prix Nobel de la paix, Robert Hutchins, qui est le président de l'Université de Chicago autour de la Seconde Guerre mondiale et qui a conforté cette valeur d'humanisme civique de l'Université de Chicago, c'est un aristotélicien, Clark Kerr, qui est le président de l'Université de Californie dans les années 50 et qui est l'auteur du California Master Plan for Higher Education. Enfin, j'ai cité au cours de mon propos Bartlett Giamatti à Yale dans les années 70 et 80, qui était un spécialiste de la Renaissance et qui a conforté cette mission d'humanisme civique. Et j'ai cité Derek Bok à Harvard de 1971 à 1991. Il n'est pas sûr qu'on puisse citer aujourd'hui des présidents aussi éminents dans l'université américaine, et c'est peut-être un problème. Je crois que cela signifie que la grande université de recherche américaine se trouve à un tournant en raison des coûts qui ont explosé au cours des dernières années et en raison évidemment de la crise plus récente. En tout cas, les deux modèles français et américain sont historiquement si divergents qu'il n'y a pas d'emprunt facile, qu'il n'y a pas de recette à appliquer. Une fois les malentendus levés, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que les réformes auxquelles on a assisté depuis quelques années ne correspondent pas à une américanisation de notre enseignement supérieur. Mais n'ignorons pas les faiblesses du modèle de l'université de recherche américaine, modèle de l'université de recherche américaine, seulement celle-là, c'est-à-dire les 15 ou 60, qui est l'explosion des coûts, la tentation du profit, la perte de l'academic freedom et peut-être la vulnérabilité du système de titularisation sur lequel elle repose, le tenure system. Merci.
Vous venez d'entendre la retransmission de la communication du professeur au Collège de France Antoine Compagnon, invité par l'Académie des sciences morales et politiques le 16 mars 2009.